two, hey.
And for the record, this is the meeting of the ICANN board with the community groups, specifically ALAC, Sunday morning, 8:30.
Let me ask that you...
Je vais vous demander de conclure la partie la plus importante de la réunion, c'est la socialisation, les uns avec les autres, les contacts, et on va aller rentrer dans le vif du sujet un peu ennuyeux. Steve Crocker. Bonjour tout le monde. Nous allons le board va commencer la journée. Une journée d'interaction avec différents groupes constitutifs pour le meilleur ou pour le pire. ALAC va entamer la session de la journée. On ne sait pas si la bonne nouvelle est qu'on n'est pas encore fatigué de toutes les interactions, ou bien peut-être la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas encore réveillé, mais le temps passe et nous devons commencer. Nous avons plusieurs thèmes. Nous avons... Quelques cycles auparavant, nous sommes passés, changer la situation au lieu que le board envoyait la liste des thèmes. Et finalement, c'était plus ou moins la même chose que nous envoyons, les mêmes thèmes à chaque groupe. Et j'ai pensé que c'était plus important d'être en mode écoute. Donc, ces thèmes sont, je crois, en général, ceux qui ont été proposés par ALAC. Il y a une feuille qui est distribuée avec les thèmes du board. Olivier vient de consulter rapidement avec quelques personnes et plutôt que de passer en revue les thèmes dans l'ordre, on va tout mélanger. On va prendre le prochain thème, donc le conseil ALAC. L'opinion d'ALAC, c'est que... Donc on va passer à l'opinion ALAC, qui est les engagements d'intérêt public qui n'est pas possible de mettre en œuvre sont tout à fait inutiles. Est-ce qu'il y a... La question posée, c'est comment est-ce que le conseil d'ALAC est traité par le board? Est-ce qu'il existe un processus en place pour aborder les conseils ALAC ainsi que des canaux conçus pour la mise en œuvre de notre conseil? Je vais parler là-dessus. Il existe les variantes de cette question qui ont survenu auparavant, à la fois lors de l'interaction avec ALAC et l'interaction avec d'autrui. Pour parler franchement, une version de cette question est pourquoi le GAC a une telle position privilégiée en ce qui concerne le fait qu'il a un avis qui a un caractère formel et un... Et voilà, voici... Mon opinion, je vais être franc quant à notre situation actuelle par rapport à où nous aimerions nous trouver. Nous devrions nous trouver et où nous sommes fondamentalement aujourd'hui. Il y a une différence entre la théorie et la pratique, bien sûr. Le conseil en provenance des conseils consultatifs et des SO requiert l'attention prioritaire du board. Cela doit être comme ça. Tel est le rapport fondamental que nous devons entretenir avec. Tels sont les rapports que nous devons entretenir dans ce type d'affaires. Mais il y a des choses pratiques qui découlent de cela. Le board n'est pas une agence opérationnelle, un organisme opérationnel, mais un processus de surveillance et bien que la charte organisationnelle montre que les SO et les AC sont connectés au board. Le board par rapport à ce qui, au conseil, le board, je crois, d'après ce que je comprends, doit le comprendre et ensuite décider ce qui doit être fait avec ce conseil et toujours sous forme d'un routage et le renvoyer à quelqu'un d'autre. Souvent, le personnel, parfois, doit l'envoyer parfois au personnel, parfois à d'autres SO, d'autres AC. La chose, ce qu'il faut faire, par exemple, quand le conseil vient du SAC, un processus que donc, je connais plutôt bien, plus ou moins bien, la chose à faire, c'est de voir si ce conseil, l'analyser, de dire, ceci devrait aller là. Donc, quand je travaillais sur le SAC, je me rappelle que j'avais une orientation des directives de Peter quand il était président du board. Donnez-nous du conseil qui inclut ce que nous devrions faire. Donc, si nous disons oui, l'action est attachée à cela. Donc, oui. Donc, voilà le processus de base. Si nous n'acceptons pas le conseil, nous le modifions d'une manière ou d'une autre, nous devrions avoir une base pour le faire. Ça ne peut pas être tout simplement un rejet sans motivation, sans justification. Et on ne va pas l'envoyer dans un trou noir et que cela, on n'en reparle plus. Donc voilà l'esprit des choses. Pour reparler à nouveau, nous ne sommes pas encore là. Nous n'avons pas les mécanismes en place et nous ne sommes pas assez assidus à suivre et à dans le traitement également. J'ai très haut dans ma liste des choses à faire, qu'il faut des choses à faire, à changer. Et lorsque le problème reviendra sur le tapis, nous aurons sur place, d'ici à Buenos Aires, nous aurons mis en place un processus de suivi formel, des conseils qui venant des SO et des AC, il sera comparable un peu comme au mécanisme de suivi pour le conseil GAC. Et non seulement nous allons le suivre au niveau interne avec le board, mais ce suivi sera visible et le fait qu'il soit sur la liste des choses à traiter et les dispositions seront visibles et au cours de ce processus, s'il existe des choses qui seraient perdues pendant la traduction, on pourra le voir à ce moment-là. Mais ce qui est le plus important, je ne crois pas que ce sera un gros problème. Les choses, par exemple, qui sont oubliées, qui n'ont pas assez d'attention. Donc, telle est mon opinion. Je m'attendrai à ce qu'on me tienne au mot et que on n'oublie pas cet engagement. Olivier Crépin-Leblanc, en fin d'enregistrement, vous êtes très... c'est une réponse complète. Est-ce qu'on peut avoir une action de suivi pour une mise à jour la prochaine fois qu'on se rencontre à Buenos Aires? La mise à jour, dit Steve Crocker, oui, il y aura une mise à jour. Le point d'action sera que nous allons mettre sur pied une version censée, facile, un système de suivi facile. Et le point actionnable, c'est que nous allons envoyer un avis bref à vous et à tous les autres AC et SO en leur demandant une forme d'identification pour que cela soit facile à suivre. Donc, je tiens vraiment à ce mécanisme, qu'il soit direct et afin que nous puissions savoir quelle partie du conseil nous parlons. Et ensuite, on aura tout simplement un registre pour suivre. Merci, dit Olivier Crépin-Leblanc. Et Sébastien Bachelet, vous avez la parole. Sébastien Bachelet, merci. Cette question est importante. Comme vous le savez, nous perdons le suivi au board et nous, quand on perd la liaison de l'ALAC au board, parce que ce n'est pas le rôle d'un membre élu au board d'amener à l'attention du board de présenter ce qui vient de l'ALAC. Il est important de le faire sans tenir compte quel type d'interaction nous avons entre le board et l'organisation, qu'il s'agit d'une liaison ou bien d'un membre du board qui a des droits de vote complets. Merci. Steve Crocker, vous voulez à nouveau avoir une liaison au lieu d'avoir une position élue. Sébastien Macholet, Steve, vous me posez cette question. J'imagine que je peux répondre à cette question. Comme suggéré, je suggérais de garder la liaison lorsque vous ajoutez un membre au board qui a des droits de vote, parce que le board intéressé est ouvert, mais il s'agit de la décision du board à ce moment-là. Donc, on est dans une situation grise, une zone grise. Olivier Crépin-Leblon, merci. Ray Plusac. Ray Plusac, merci. On pourrait toujours rendre le... revenir à la situation antérieure et on aura terminé. C'est facile en ce qui concerne le Conseil. Si ALAC prépare le Conseil, nous devons tenir compte de la nature et du Conseil, la nature et du contenu du Conseil que vous préparez. Si il s'agit d'un Conseil pour une politique qui est en examen, ce serait peut-être plus efficace. Et cela aurait été plus efficace si ALAC avait participé au processus d'établissement politique des SO, du SO dont il est question, et le faire plus tôt, parce qu'il s'agit d'un processus ascendant, pas le contraire. Et lorsque vous essayez d'intégrer un changement au processus de politique par le board, vous avez un mécanisme du haut vers le bas pour arranger quelque chose et ça ne va pas. Autre chose dont il faut se rappeler, que plus vous êtes plus loin dans le processus pour donner le conseil, ça veut dire que vous devez crier encore plus fort pour vous faire entendre. Alors que si vous le faites vraiment au début, dans les phases initiales, c'est plus facile qu'on vous écoute, qu'on l'intègre dans le processus. Si cela ne marche pas, alors il y a quelque chose qui doit être arrangé. Mais pour être efficace dans le processus d'établissement politique, si c'est un politique sur le conseil, voilà ce qui devrait être fait. Si c'est un conseil sur une politique qui est existante, alors vous devez tenir compte que peut-être que c'est mieux au lieu d'aller au board pour les forcer à faire une politique qui existe. Steve Crocker, j'aime votre argument, Ray, et une partie de l'évaluation du conseil lorsqu'il arrive, je vais le prendre ça personnellement dans le cadre de notre réponse. On sera peut-être plus doux, peut-être plus strict, pour répondre à celui qui nous donne le conseil, que ce soit ALAC ou n'importe qui, qu'il aurait mieux fait en faisant plutôt quelque chose d'autre, en s'impliquant plutôt. Steve Ray Plusac, oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Ce serait plus efficace si vous arriviez au bon SO et ensuite notifiez le board que vous faites cela pour que le board soit conscient que cela se passe. Donc, c'est une autre technique. Je pense qu'il faut vraiment voir la nature de votre conseil. Et ensuite, s'il s'agit de quelque chose qui porte sur la mise en œuvre, quelque chose, une procédure, et que la personne concernée, que tout cela soit adressé à l'exécutif, parce que c'est là où la balle est... celui qui a la balle se trouve. Merci de Olivier Crépin-Leblon. Nous avons une longue file d'attente. Evan Holly, Bertrand, je suis un peu préoccupée que nous allons passer tout ce temps sur ce sujet, surtout puisque je pense que beaucoup de membres à LAC et à large participent au groupe de travail GNSO et CCNSO également. Et en capacité personnellement à cela revient à LAC et à large et discuter ce qui se passe dans ces groupes. Donc, on aborde ce problème à différents niveaux, mais d'abord on a Evan, ensuite Alan, et ensuite on allait voir si quelqu'un d'autre aimait baisser la main plutôt que de la lever. Evan Nevobovic, je vais répondre au point de l'argument de Ray que ALAC a toujours voulu de voir. Et qu'il s'agit et que s'il s'agit d'un groupe de groupes de travail pour l'ensemble de la communauté. Nous avons une situation selon laquelle, par exemple, la politique par rapport à la mise en œuvre, nous avons une personne à l'AC, Oli, qui est présidente, mais c'est quand même un effort GNSO, une charte GNSO et une approbation GNSO. C'est quelque chose, surtout pour les questions comme la politique, la mise en œuvre, qui doit être pour l'ensemble de la communauté et vraiment comme le board pour être engagé et en encourageant davantage la CCWG. C'est quelque chose qui a des chartes pour l'ensemble de la communauté. Pas seulement pour ALAC, mais aussi pour d'autres AC. Il faudrait que le GAC s'implique plus tôt dans le processus. C'est quelque chose que le board doit prendre l'initiative et pousser les choses et ne pas dire seulement « Ah, ben, personne d'autre n'est en train de faire quelque chose, donc nous, le GNSO, nous, on va faire prendre la politique et la mise en œuvre de notre côté. » Mais souvent, je vois que lorsque le board fait la décision sur les choses qui viennent de ALAC, ils sont passés par un filtre et au moment où ils sont arrivés au board, les arguments sont sortis. Comme les notes de briefing que vous avez vues ne reflètent pas forcément notre intention et quelque chose comme de voir à l'AC, voir les notes de briefing pour qu'on puisse sélectionner, voir si c'est vraiment qu'il s'agit de ce qu'on voulait, pour voir si c'est vraiment si on parlait de ça, au lieu d'avoir une liaison, qu'avoir des idées plus claires de ce qu'on voulait voir. Merci. Je veux dire que les notes du briefing viennent du personnel et je pense que je vais interpréter vos commentaires de la façon suivante. Ils sont concentrés sur, je veux savoir si cette boucle est fermée, c'est un commentaire juste, équitable, sans critiquer ou jeter la culpabilité à personne. Vous, pour n'être pas au... Il n'y a aucune raison pour vous de ne pas être au courant et de voir comment cela est composé. Olivier Crépin-Leblanc, merci Steve. Je pense que Evans fait référence à l'historique et historiquement, oui, ça a été le cas. Nous avons vu un grand progrès là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de discussions bilatérales. Les membres du board sont venus à nos membres et ont dit « Vraiment, vous voulez vraiment dire ça ?» Donc, on communique mieux. Alan Greenberg, merci. Mes commentaires portent sur ce que a dit Ray. La LAC fait beaucoup de déclarations. On fait très peu au board. La LAC participe aux actions, qu'elles se soient pour les PDP, pour le reste de l'organisation, ou bien le CCNSO, GNSO, d'autres groupes ad hoc tels que IDN, plus que d'autres parties d'ICANN. On fait des déclarations au board. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas participé au processus, c'est parce que quelque chose est survenu, est venu au board, et on pense que c'est le board a le pouvoir discrétionnaire là-dessus, et il devrait connaître notre position avant de faire cette décision. Le board a le pouvoir de ne pas accepter le conseil de politique si elle met en danger l'organisation ou l'intérêt public, ou peu importe. Il y a des termes selon lesquels nous donnons des conseils en général au board. Nous avons nos problèmes, comme tout le monde, et il y a des exceptions à ce que nous essayons de faire. Merci, Alan, dit Olivier Crépin-Leblanc. Alan, oui, si vous vous rappelez après ce que j'ai dit, si on ne vous entend pas, alors c'est quelque chose de différent. On doit arranger quelque chose parce qu'il semblerait que la situation décrite, si vous demandez la participation, il y a deux choses. Le consensus, la détermination du consensus n'est pas faite correctement. Il n'y a pas un véritable consensus de notre côté. C'est quelque chose d'autre que cela. Alors, vous avez raison. Si cela va causer une préoccupation fiduciaire responsabilité, voilà, il faut que le board se préoccupe de ces choses. Donc, oui, ne pas faire de tort, ça doit s'appliquer. Mais si cela est perçu comme ça et le fait que cela a été soulevé pendant la discussion que vous décrivez, alors je dirais qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de ce processus qui doit être analysé et arrangé. Et certainement, l'itinéraire que vous l'envoyez pour envoyer un message d'alerte qui dit « Hey, board, avant de faire cela, vous devez être conscient de cela. » ça va créer un tort fiduciaire dans notre organisation. Olivier Crépin-Leblanc. Merci, Ray. Maintenant, je suis préoccupée par le temps, les questions de temps. Donc, maintenant, nous sommes dans la période des métriques pour compiler des paramètres sur le nombre d'heures dans la communauté at large. Donc, nous travaillons en groupe, à LAC, etc. Toutes les téléconférences, en fin de compte, que at large est en train de faire, le nombre d'heures de téléconférences entre réunions, etc. Et nous essayons de le faire, donc, de suivre le nombre d'heures de téléconférences que nos membres doivent faire dans d'autres groupes de travail. Donc, on va suivre leur présence, non seulement par le fait qu'ils sont dans les groupes de travail, mais plutôt par leur présence actuelle pendant les conférences, téléconférences. Et on aura une meilleure vue de comment cette communauté at large est impliquée, non seulement dans notre petit espace, mais également dans les groupes de travail pour l'ensemble d'ICANN. Chérine Chalabi, merci. Je ne veux pas ajouter quelque chose au processus suggéré, mais on va prendre un exemple pratique. Récemment, nous avons envoyé du conseil sur le variant IDN et le marque de commerce, et nous avons répondu que nous avions des réunions. Je serais intéressée sur votre opinion de ce qui a marché. Vous pouvez détailler, Olivier Crépin-Leblanc. Oui, merci, Chérine. Je pense que ce sont des problèmes épineux qui ont beaucoup de complexité dimensionnelle. Et parce qu'il y a aller-retour à l'écrit, ça n'aide pas, parce qu'il y a une mauvaise compréhension et les gens lisent entre les lignes alors qu'il n'y a pas vraiment à le faire. Et quand vous traitez avec des problèmes techniques complexes, c'est pire parce que personne ne comprend les mots de la même manière. Donc, je suis très heureux de cela. Hier, nous avons un face-à-face. Il y avait un groupe de travail IDN avec le board et il y avait également le groupe de travail IDN à LAC. On s'est rencontrés informellement pour essayer d'expliquer nos positions. Et j'espère que pendant les réunions plus tard, s'il y a des questions qui font aller-revenir entre board, à LAC et peut-être le reste de la communauté, on peut se rencontrer en petits groupes et essayer de promouvoir les choses, d'avancer un peu pour essayer au moins planifier les problèmes, aplanir les problèmes. C'est pas parfait. Il y a l'interprétation parfois est mal faite et il y a des grandes divergences. Donc le face-à-face a beaucoup aidé.
Merci. Steve Crocker, nous avons le choix d'approfondir le sujet ou alors d'allouer le temps à autre chose. Je crois que ce point était censé être le point le plus facile et le plus rapide. Oui. Alors, maintenant, nous allons prêter attention au quatrième point de la liste. ALAC considère que les engagements d'intérêt public non enforçables n'ont aucun intérêt. Eh bien, oui, tout à fait. Si on ne peut pas mettre ça en application, ça ne sert à rien. Le conseil est d'accord. Donc, passons à autre chose. Steve, je voulais suggérer que Alan explique un petit peu plus, hein, dit Olivier Crépin-Leblanc. Cette question a été posée lors du dernier conseil d'ALAC, dit Alain Greenberg. Il y a eu un tout petit peu d'informations sur une diapositive sur la conformité qui indiquait de façon implicite que le monde ne correspond pas exactement à ce qui avait été annoncé dans l'annonce PPNR. Notre souci, c'est que si nous avons un engagement d'intérêt public, il devrait y avoir un moyen de le mettre en application. Et je ne souhaite pas nécessairement soulever une controverse, mais je vais le faire quand même. Dans le monde actuel, si vous voyez Mickey Mouse qui est registrant de domaine, nous avons un moyen de faire une demande, une plainte auprès d'ICANN et ICANN devra pouvoir agir par le biais du registraire pour réparer ce problème. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui est licencié d'ICANN qui utilise le nouveau monde de Fadi pour un TLD et qu'il ne rencontre pas ses engagements, qu'il n'est pas fidèle à ses engagements, à ce moment-là, nous n'avons pas d'option. S'il y a un problème, une infraction, on ne peut pas mettre tout un tas d'argent et ce n'est pas exactement comment est le monde, mais je crois qu'il faut absolument mettre en place des processus qui nous permettent d'indiquer que les DRP sont utiles, d'autant plus que le Conseil propose des DRP obligatoires. Donc, voilà, donc nous pensons qu'il y a des changements. Nous ne savons pas lesquels ils sont. Nous aimerions vraiment savoir à quoi cela correspond afin que nous puissions avoir un certain niveau de confiance pour nous assurer que les PICS sont réellement significatifs. Olivier Crépin-Lebon, merci beaucoup. Donc, les mots sont très importants, dit Chris Dispin. Et de la même façon que inutile a une signification, de la même façon, appliquer les règles a une signification également. Et donc, ce n'est pas ce qui correspond à ce que vous souhaitez. Hein. Les PICS, eh bien, nous pouvons les mettre en application parce qu'ils correspondent à un contrat, donc forcément. Ceci est clair. Maintenant, ce que vous souhaitez, c'est d'avoir un mécanisme en place. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce qui correspond pour vous à quelque chose qui doit être mis en application, qui doit être forcé. La seule discussion que nous ayons eue, dit Alan Greenberg, c'est que, en termes de documents, c'est que les DRP, pour être fiables, il faut y avoir en fait un problème personnel, Chris Despin. Alan Greenberg. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas entendu qu'il y ait un processus au sein d'ICANN. ICANN va essayer de faire appliquer les PICS, mais ce que nous avons réellement dit, c'est qu'il y a un processus pour les conflits. Mais pas à un niveau précédent. Alors, j'aimerais poser une question pour clarifier, dit Steve Crocker. Je ne sais pas exactement où nous en sommes en termes de mise en application et des PICS. La question, c'est où en sommes-nous dans le processus? Fadi Shehadeh. Alors, rapidement, oui. Les PICS, nous pouvons les mettre en application, forcer leur application, ils font partie du contrat. La question, c'est le cheminement vers cette mise en application. Alors, est-ce qu'il est facile ou est-ce qu'il est difficile, ce cheminement, cette approche? Et ça, c'est une autre question. Donc, si la question est relative au processus, eh bien, je peux le publier. Nous allons le republier, c'est déjà publié, c'est sur notre site web, mais nous pouvons créer un tableau, un graphique qui permet de clarifier comment les gens, quelles démarches font les gens. Je veux bien m'engager à faire cela. Et ensuite, je suis sûre qu'il y aura des commentaires par rapport au processus. Est-ce qu'il est convenable ou est-ce qu'il peut être facilité, est-ce qu'il peut être plus rapide, etc. Et moi, je suis tout à fait ouvert aux commentaires là-dessus. Donc, nous n'allons pas continuer plus loin ce matin. Je voulais simplement clarifier le fait que, oui, ces engagements du point de vue contractuel doivent être mis en application. Et je peux interrompre les opérations des licenciés en cas de problème, s'il y a infraction. Ça, c'est tout à fait possible, et je le ferai. Pour ce qui est du processus, je peux tout à fait le clarifier de manière publique, rapidement. Alors, j'aimerais quand même rajouter quelque chose, dit Steve Crocker. Je crois qu'il y a deux points clés là-dessus. Déjà, de collecter des données en termes de processus, de fonctionnement du processus, c'est-à-dire donc d'avoir des exemples et de revoir ces exemples. Et deuxièmement, savoir si tout le monde a la même vision, le même modèle auquel nous adhérons, parce qu'on pourrait avoir certaines personnes qui disent « oui, ça fonctionne bien, nous avons tel conflit qui a été bien résolu », et d'autres personnes qui diront « non, ça ne nous plaît absolument pas. Le processus, eh bien, nous n'avons pas eu le résultat que nous souhaitons. Nous n'avions pas accès à telle ou telle chose. Nous n'avions pas la même vision de ce qui constitue un problème en termes d'intérêt public. Alors, sur les deux points, que les mécanismes fonctionnent bien ou non, et que, à savoir si nous sommes d'accord sur le processus, eh bien, il y a simplement un certain nombre de choses que nous pouvons faire au départ. Mais ensuite, il faut revenir sur le passé au bout d'un an, sur les détails, si vous voulez. Merci beaucoup, Steve, dit Olivier Crépin-Leblond. Nous avons une liste de personnes. Donc, nous avons encore un certain nombre de personnes, Erika, Salah et Oli. Mais je vous demande, s'il vous plaît, de parler rapidement. C'est très facile, dit Erika Mann. Je crois que pour la plupart d'entre nous, nous l'avons déjà dit. Simplement, j'aimerais répéter trois points très rapidement. Je crois que Steve a raison. Nous devons saisir l'opportunité lorsqu'il y a une analyse à faire. Ou alors on peut peut-être pousser cette analyse plus rapidement sur ce sujet pour savoir ce qui fonctionne, s'il y a des déceptions au sein d'ALAC. Et si c'est le cas, comment pouvons-nous améliorer le processus? Deuxièmement, il est très important, à mon avis, d'attendre que Fadi explique, que le processus soit publié, et ensuite de recevoir des commentaires. Parce que parfois, au départ, il semblerait que les choses ne fonctionnent pas bien. Et puis, troisièmement, pour moi, c'est très important, c'est-à-dire de combiner le processus d'évaluation. Et le processus d'évaluation, c'est différent de l'analyse. Et je pense que ceci doit être fait. Et donc, de faire un peu le suivi des plus et des moins, du positif et du négatif, dès que possible. Alors, Salagneta Tamanika Wamaro. Merci Olivier. J'aimerais me focaliser sur ce qui doit être mis en application. Et j'aimerais noter que l'intérêt public international doit être lié avec l'engagement. Alors, j'aimerais donner un exemple pratique. Pour moi, il y a une lacune en termes de 4990, où il y a eu une estimation de 26 bénévoles. Alors, ceci ne correspond pas à ce que nous a dit Fadi dans ses remarques d'ouverture, où il y a des milliers de bénévoles. Alors, deuxième question, encore dans le formulaire 990, où est-ce que ICANN dépense son argent du point de vue géographique? Donc, par exemple, 44 000 en Russie et 1,19 million au Liban. Donc, je ne veux pas entrer en conflit à ce niveau-là, en termes de distribution des argents et des ressources, mais il y a un clair besoin de prendre en considération et de parler du problème de la parité et du lieu où on alloue les ressources. Et j'aimerais recommander, encourager le board à entretenir des normes très élevées. Parce que la réalité, c'est que je crois que ICANN est un leader dans le système multipartite, mais je crois qu'on peut toujours améliorer les progrès à faire dans ce sens. Merci beaucoup, dit Olivier Crépin-Leblond. Je pense que c'est quelque chose dont il va falloir discuter, parce que ce n'est pas exactement dans le sujet, mais nous allons passer maintenant, mais il faut en parler quand même. Nous allons maintenant passer à la personne suivante. Evan Lebovitch. Oui, je crois que le board, les personnes seniors et ALAC ont vraiment beaucoup d'intérêt dans la question des PICS. Ce n'est pas une question de conformité, c'est aussi une question de frais. Est-ce qu'ils ont payé leurs frais? Il y a une interprétation, il y a les erreurs d'omission. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de nuances qu'il ne semblerait évident. Vous savez notre rôle dans l'écosystème et donc n'hésitez pas à continuer de vous faire nos commentaires. Donc, Holly Reich, dit Olivier, pour terminer le sujet. Alors, Holly, J'aimerais en rajouter un petit peu là-dessus. En termes d'application des règles, c'est vraiment une question de bénéficiaire. Et donc, il est très difficile pour une personne qui, parfois, est trompée, si vous voulez. Oui, les choses doivent être appliquées, mais il y a des contraintes par rapport à ça. Et la question d'origine que j'avais, c'est que le board avait demandé des moyens de mesurer l'efficacité du système des nouveaux GTLD dans les catégories de confiance, de choix et de compétition. Et donc, moi, ces moyens de mesure, je les trouve très enthousiasmants. Est-ce que les gens font effectivement ce qu'ils disent qu'ils vont faire? Et je sais que pour les plaintes, c'est un petit peu différent, mais je pense que l'étude qui a été mentionnée est très intéressante. Et il faut que les moyens de mesure puissent nous permettre de comprendre si les nouveaux GTLD font ce qu'ils sont censés faire. Merci. Merci beaucoup, Holly, dit Olivier. Et c'était justement sur la liste de nos points. Donc, la question que Holly vient de poser. Donc, nous passons... Y a-t-il d'autres réponses, d'autres réactions? Alors, la question... dit Judy Vasquez, comment est-ce que nous savons que cela va marcher? Nous n'avons même pas lancé ces nouveaux TLD, donc nous ne savons pas encore. La question, c'est est-ce que ICANN dispose du leadership nécessaire pour s'assurer qu'ils correspondent aux obligations du contrat? Le leadership est là. Merci. Merci, Judith, dit Olivier. Fadi Shahadi. Fadi, j'aimerais rappeler certains faits à tout le monde. Nous n'avions pas de PICS dans le contrat il y a quelques mois. D'accord? Et tous, on discutait, il faut absolument que les gens payent, qu'ils fassent la base. Alors, ce que nous apprécions, c'est que grâce au feedback de la communauté, grâce à vos commentaires, nous avons créé quelque chose qui n'existait pas, les PICS. Volontairement, nous avons demandé s'il y avait des gens qui voulaient bien se porter bénévoles. Eh bien, des centaines de personnes se sont portées bénévoles. Nous avons plus de 500 demandeurs qui ont participé au système de PICS. Il n'y a personne d'autre sur la planète qui fasse la même chose. D'accord? Donc, c'est grâce à vous que nous avons inventé un système très intelligent et les gens s'engagent. Le public s'engage. Peut-être que Coca-Cola le fait, mais le fait pour d'autres raisons. Ici, nous avons rendu les gens responsables par un contrat. Donc, tout ceci, c'est positif. Et je crois que vous nous poussez au niveau supérieur. Et c'est tout à fait bon. Comment est-ce que nous allons le mettre en application? Comment est-ce que cela va se passer? Alors, n'oubliez pas qu'on ne va pas transformer ICANN en une agence d'application de la loi qui va courir dans le monde entier pour s'appliquer que les TLD en Inde sont bien mis en pratique dans telle ville. Non, ça c'est des ressources incroyables qu'il faudrait pour faire les choses comme ça. Donc nous passons à un mode de crowdsourcing pour la détection des problèmes. Nous vous demandons à vous en particulier, et je crois que c'est un rôle que la communauté at large peut avoir mieux que les autres, de surveiller l'engagement du public, l'application du public. Et si vous trouvez qu'il y a des problèmes, à ce moment-là, nous devons pourchasser et nous devons mettre en application les règles. Mais tout le monde doit être responsable de manière égale avec nous dans la détection des écarts à l'engagement du public. Et ce que je veux dire par tout le monde, c'est tous, d'accord? Les gouvernements, tous ceux qui surveillent. Et ces PICS seront publiés de manière très claire sur le site web. Tout le monde les verra. Mais j'aimerais quand même nous féliciter, pas moi, mais vous, nous tous, parce que nous avons fait quelque chose, nous faisons quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Il y a un point de référence pour nous. pour les personnes qui sont engagées par un contrat, il y a un engagement volontaire à publier l'intérêt public. Et donc maintenant, il nous faut travailler ensemble pour que ceci soit mis en application. Et donc, mon engagement, c'est de vous impliquer au sein de processus, afin qu'il fonctionne pour vous. Et je m'y engage, Olivier, je le ferai. Olivier, merci beaucoup, Fadi. J'aimerais dire que je suis satisfait. Alors, rapidement, dit Alan Greenberg, Fadi, nous sommes très heureux de l'existence des PICS. Nous comprenons que le processus est très inhabituel, le fait que nous en disposons et le fait que nous puissions comprendre ce processus, que ce soit le crowdsourcing ou autre, nous ne demandons pas à ICANN d'être la force policière qui va faire les investigations, mais s'il y a, par exemple, une indication dans un document de ceci, eh bien, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Donc, j'aimerais quand même faire avancer un petit peu les choses là-dessus. Alors, je crois que, dit Steve Crocker, nous sommes prêts à passer au sujet prochain, les domaines sans points. Donc, les soucis de sécurité et de stabilité ont reçu l'attention du conseil, du board. Donc, ces préoccupations reçoivent notre attention. C'est donc un point très important parce que la sécurité et la stabilité sont des sujets de haut niveau et d'un autre côté, la question suivante, c'est alors vous ne faites attention à rien d'autre, cela n'est pas vrai. Ce qui est clair, c'est que nous traitons ces questions avec une attention particulière. Alors, j'aimerais me focaliser sur les TLD sans points. J'ai surveillé un petit peu le trafic sur ce point et il y en a eu énormément. Ce qu'il me semble, c'est que nous avons énormément de données et donc que le moment est venu de prendre une décision et de passer à la suite. Ce qui me préoccupe, c'est que nous prêtons pas nécessairement attention au reste. Il y a beaucoup d'autres choses qui demandent notre attention. Ce n'est pas une décision du board en soi, mais c'est une décision d'un comité sur les nouveaux GTLD. Chérine, oui, cela fait partie de notre ordre du jour du mois d'août et nous attendons un rapport de la commission, mais nous avons mis ceci à notre ordre du jour. Merci, Chérine. Si je peux rajouter quelque chose là-dessus, c'est Olivier, le fait que le board ait demandé ces rapports supplémentaires par rapport au nouveau GTLD, par rapport au nouveau certificat et au conflit à ce niveau-là, et aussi au conflit qui peut se produire lorsqu'un domaine de premier niveau est en conflit avec un ancien. Le message envoyé au public, c'est que le board n'était pas très au clair. Nous sommes en particulier préoccupé par la stabilité, par le risque de conflit lorsque ces nouveaux GTLD seront lancés. Donc, il nous faut nous assurer que les choses soient bien claires. Le board est tout à fait conscient et tout grain de sable dans la machine aura des conséquences importantes. Et nous allons procéder avec prudence et j'espère que le message que vous avez envoyé ne devrait pas contredire ce que je viens de dire. Je pense que vous avez une bonne idée de la façon dont nous procédons. Alors, quelques points, dit Thomas Narten. Je crois que le fait que cette question soit placée à l'ordre du jour, c'est qu'il y a un sentiment que nous ne considérons pas la sécurité de manière suffisante. Et je crois que La question, c'est est-ce que nous n'agissons pas suffisamment rapidement? Est-ce que nous faisons des choses qui sont mauvaises? Merci, Thomas. Donc, dit Olivier, ce n'est pas que vous n'en faites pas suffisamment, mais par rapport à la question qui a été posée, après le rapport sur les TLD 100 points, il y a eu des déclarations très claires par Microsoft, par Mozilla, par l'IETF, par ces personnes qui ont tout un historique par rapport aux problèmes relatifs aux TLD 100 points. Mais le rapport de l'équipe nous a dit qu'il n'y avait pas de consensus et qu'il y avait des opinions diverses et donc il fallait travailler davantage là-dessus. Et cela a surpris la communauté.
J'avais juste observé que le processus qui avait été mis en place durant les deux dernières années, lorsqu'il s'agit des processus LGR et l'intégration, les panels et l'intégration, les panels d'intégration, c'était, ça avait à voir avec la stabilité et la sécurité. Mon avis, il me semble que des fois, on a des messages un peu mélangés de la part de la communauté. Est-ce qu'on doit aller plus vite? Est-ce qu'on doit avoir une solution intérim? Donc, encore une fois, aller, que le processus soit plus rapide. On doit faire les choses quand même d'une façon stable et sécurisée. On a mis en place le processus pour que ce soit fait correctement et précisément. Donc, à mon avis, cela bouge aussi vite que possible. Si vous devez le faire aller plus vite, si on pouvait le faire aller plus vite, on le ferait. Donc, le message qu'on entend, c'est toujours qu'il faut que ça aille plus vite. Est-ce que vous nous dites ça? Vous voulez qu'on aille plus vite ou vous voulez que l'on bouge à notre rythme et que ce soit sécurisé et stable? Alors, l'Olivier, crépa le blanc, oui, c'est un peu comme si on voulait le gâteau et l'argent du gâteau. Thomas Narten, oui, bien sûr, moi aussi, je dis ça. Evan, pour revenir à votre question, Thomas, de la façon dont la question est posée, cela ne veut pas dire que les inquiétudes. Par exemple, quand on a rencontré le SAC hier, il y avait un peu un sens de frustration. On a essayé de rendre les choses, d'arranger les choses dans les commentaires qui sont sortis. Nous ne voulons pas dire, on vous l'avait déjà dit. C'est juste, c'est ce qui a... Cela a été amené de l'avant parce qu'il y a eu une inquiétude, il y avait un problème, on pensait qu'il y avait le consensus. Et puis d'un seul coup, on se dit qu'il y a besoin de plus de recherche. Renalia au micro. Thomas, nous voulons que ce processus aille plus vite, mais nous sommes aussi concernés par la sécurité et la stabilité du DNS. Oui, nous voulons les deux. En fait, mon processus LGR Underwood nous pose une inquiétude. Nous ne voulons pas qu'une certaine partie du process soit enrayée par la politisation. C'est la chose spécifique sur le LGR et cela, je sais qu'on n'a pas besoin d'en parler, mais je voulais juste soulever le sujet. Olivier Crépalet-Blond, oui, nous avons eu un face-à-face avec le IDN. J'espère que nous n'allons pas encore lancer le sujet des IDN. Edmond a besoin de dire quelque chose. Edmond, vous avez 30 secondes. Edmond, oui, ce que Thomas a dit, c'est très important parce que, de notre point de vue, je ne pense pas que nous envoyons de messages mélangés, confus. Il y a probablement des malentendus. Le processus qu'on a commencé hier soir était très bon. En allant de l'avant, nous devons voir que c'est un élément dont nous devons parler plus sérieusement. Olivier Crépin-Leblon, merci Edmond. Je pense que maintenant, nous pouvons passer à la dernière question. Nous allons peut-être arriver à respecter le temps limite que l'on a. Steve Crocker, la dernière question. Il s'agit de la question qui est sur la troisième sur la liste. Les groupes experts, à qui rapportent-ils leurs résultats? Et sont-ils menés par le board ou le personnel? Est-ce qu'ils servent un but de l'organisation ascendante? D'abord, la création du groupe de travail d'experts. Il y a d'autres exemples. Il y a peut-être d'autres exemples à citer, mais de la part du board ici, et du parlé, nous avons IETF, qui est dynamique et rassemble les choses, traverser les communautés, quand on dit ascendant, apportera des gens qui sont en externe de cette communauté. Parce que hier, il m'a demandé, c'est dur de rentrer dans votre communauté parce que on a un permis de rentrer. Nous devons laisser ouvrir les choses, nous devons laisser le monde participer dans ces panels. Il faut que ce soit plus ouvert, plus transparent, les réunions seront transparentes. Tout ce que nous allons faire dans ces panels sera transparent, je vous le promets. Steve Crocker, dans l'esprit de dialogue ici, je pense qu'il y a quelques personnes qui pourraient argumenter que les groupes fermés, quels qu'ils soient, devraient être interdits. Il ne devrait jamais y avoir de panel de gens sélectionnés, ainsi de suite, que toutes les réunions doivent être ouvertes, que tout le monde puisse se joindre à ces réunions. Cela devrait être notre marque, notre empreinte, que ce soit... C'est l'essence de la critique que l'on entend d'ailleurs. Cela veut dire que les groupes de travail, ITF par exemple, ce modèle est fermé et maintenant qu'il soit ouvert. C'est ça qu'ils font. Steve Crocker dit oui, je pense. Le groupe ITF peut joindre. Fadi dit tout le monde peut se joindre, tout le monde peut donner des informations à ce panel d'experts. Steve Crocker, l'existence du panel, l'idée qu'il y ait un panel de gens bien spécifiques, c'est le cœur de l'objection. Ce n'est pas un mécanisme qui est régulier, qui est consistant à notre ouverture, à notre transparence. Fadi, je suis prêt à complètement éliminer ce panneau demain. Oui, oui, je suis complètement prêt. Si nous croyons en tant que la communauté que nous devons avoir des réunions ouvertes pour pouvoir comment est-ce que la communauté va coopérer, moi je suis préparée à le faire. L'existence de la question, dit Olivier Crépin Lebon, ça ne veut pas dire que nous sommes en désaccord. Il y a des membres de ce groupe qui me donnent du suivi et qui me disent qu'il y a du progrès. La question est une question ouverte. Que ce soit le board ou le personnel, il me paraît que c'est un sujet assez... c'est difficile à aborder. La première personne qui a levé la main... c'était Thomas et Erika, Sébastien et Chris Dussmann aussi, et Bertrand aussi, qu'il veut parler. Excuse-moi, Bertrand. Cela nous amènera jusqu'à minuit si on laisse tout le monde parler. Donc, essayez d'être rapide. Thomas Martin, oui. Sur le sujet ascendant, la question est déjà venue. Quelques observations. Ce n'est pas noir et blanc. Quand les gens essaient de simplifier les choses, on n'arrive à rien. Je suis d'accord avec ce que Fadi a dit au niveau d'une approche horizontale. J'ai vu ça dans d'autres communautés, la ITF et autres. On a beaucoup de conversations. On dit toujours à descendant, il faut que ce soit, c'est interdit, il faut que ce soit ascendant. Ascendant, cela veut dire... Dans une organisation comme ICANN, le modèle veut dire que les participants qui font beaucoup de travail... Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent des leaders, ils font partie, ils deviennent une partie de la couche supérieure. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas actifs? Ils ne sont plus actifs? Non, le clé du modèle ascendant, c'est que le travail est revu, révisé et que la communauté peut apporter des informations, la communauté est entendue, est écoutée et on sait que les résultats viennent de ce qu'a apporté la communauté. C'est le point clé. La réalité, c'est que dans le monde réel, le travail n'est pas fait par une communauté de 50 personnes. C'est pour ça qu'il doit y avoir des équipes de design, vous les appelez comme vous voulez, mais c'est un petit ensemble de de gens qui se rassemblent et qui mettent ensemble un plan. Un showman. Le message clé, donc, est-ce que les gens qui ne sont pas dans ces comités se sentent qu'ils doivent être sur le comité pour pouvoir être entendus? Et c'est ce qui se passe, vous avez un problème. Le but, c'est bien d'être dans un comité. Je verrai les versions préliminaires, je serai capable de réviser. Si je donne des informations importantes, ces informations sont adressées. Si les gens pensent que cela fonctionne, votre système fonctionne bien. Merci Thomas, dit Olivier Crépin-Leblon. Je pense qu'il y aura, et on va enregistrer les applaudissements dans la transcription. On n'a pas assez de temps. Alors, un commentaire d'Erika. Erika, ce que disait Thomas, on peut aller un peu plus en avant et quand cela revient vers la communauté, les commentaires sont reçus, les problèmes qui sont débattables. Je pense qu'il serait bon d'avoir ces fonctions croisées, ces discussions. Ce n'est pas seulement un groupe qui va y penser. Il faudrait que ce soit de groupes différents dans la communauté qui auraient quelque chose à dire. Je pense que ce serait un bon moment pour se rassembler, discuter, et ensuite on pourrait ramener cela vers vous, ou vous revenez avec un autre rapport, quelle que soit la méthode que vous voulez appliquer. Olivier Crépin-Leblanc, Sébastien Bachelet? Oui, Sébastien Bachelet, je pense que nous discutons plus les processus que les résultats. Et je pense qu'une partie des membres du board va être en désaccord, les membres aussi du groupe. Mes inquiétudes, après ce que j'ai vu hier, il y a du temps qui est passé pour expliquer ce qu'ils pensent et défendre leurs solutions. Ils ne prennent pas tellement les informations, reçoivent pas les informations de la communauté. Nous sommes ici pour recevoir les informations de la communauté. Je pense aussi qu'un tel groupe doit dire « Nous avons la solution, nous sommes les rois du monde et nous devons avoir la solution. » J'ai l'impression que nous sommes déjà un document, nous devrions avoir un document, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et on passe du temps à dire « Ah, on n'est pas encore, on n'a pas encore arrivé au bon moment. » Et nous sommes trop en avance pour faire le document final et dire que c'est la solution. Sébastien, Olivier, encore deux personnes à la queue pour parler. Chris, oubliez Charine. J'allais seulement dire que j'allais parler du processus. Votre question ici. Une chose qui m'a donc surpris, c'est une partie de la question. Carlton peut vous en parler puisqu'il est dans le groupe. J'étais assez confus pourquoi cette question était sur le papier. Je dois répondre très vite aux commentaires de Sébastien. C'est une mauvaise caractérisation du processus de suggérer que le groupe d'experts ne reçoit pas les informations. Et cela suggère qu'on arrive avec une solution finale et qu'on est déjà prêt à en parler. Ce n'est pas le cas. Toute cette semaine, on a reçu des informations, le groupe d'experts, avec Steve ou moi, même sans nous, on a eu des réunions avec chaque groupe, chaque organisation consultative. Et c'est vraiment incorrect de dire que c'est nous qui poussons une solution et qui forçons une solution. Je voulais juste dire que je n'aime pas que ce soit caractérisé de telle manière. Merci Chris, dit Olivier Crépin-Leblanc. Bertrand de la Chapelle, cette question, c'est bien qu'elle soit sur la table parce que cela va au-delà de ce groupe d'experts en particulier. C'est un problème général avec la question de l'approche croisée dans la communautaire. Quand il s'agit de l'organisation au niveau ascendant, le modèle ascendant, comme Je sais, il y a beaucoup de gens qui font des blagues sur la tendance que je dois parler beaucoup, que je parle beaucoup. C'est devenu une grosse blague. Je continue. Parce que dans beaucoup de cas, on ne parle pas assez des problèmes qu'on essaie de résoudre avant de les adresser. Et on passe beaucoup de temps et de mauvaise manière à argumenter sur des termes sur lesquels on n'est pas d'accord. Donc le bénéfice des groupes de travail... Et il y a encore une autre question sur comment ils sont composés. D'ailleurs, ça, c'est autre chose. Et donc, au début, quand il y a un problème, on devrait rassembler les protagonistes très de bonne heure pour encadrer le problème de façon à ce qu'on soit tous d'accord, que tout le monde le comprenne de la même façon. Donc, je pense que cela sauverait des mois de travail par la suite. Et ça, c'est mon premier point. En deuxième, je suis complètement d'accord avec ce que Thomas disait quand il s'agit de la notion de modèle ascendant, les gens qui sentent qu'ils ne se sentent pas engagés ou que l'on ne les écoute pas. La question qu'on n'a jamais encerclée, en fait, dans ce processus multipartite, on doit dire comment on compose des sous-groupes d'un grand groupe de façon légitime. La méthodologie que l'on a utilisée, les task force, les généraux, c'est de passer d'un groupe à groupe par groupe avec des délégués. On est passé au groupe de travail, mais on n'a pas de formule pour les composer. La possibilité, ce serait de prendre des décisions descendantes, des gens qui sont bénévoles. Moi, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Comme disait Thomas, la certitude que quand on a une position qu'on doit avancer devant un groupe, il devrait y avoir une personne dans ce groupe qui pourrait vraiment faire passer ce message de façon honnête. On doit faire confiance à une personne pour que cette personne fasse passer le message. Pas parce qu'elle ou lui partage vos points de vue, mais il doit y avoir au moins une personne qui fera passer le message. Cela voudrait dire... il ne faut pas tromper donc la représentation. Il ne faut pas aller de l'arrière vers l'arrière pour que tout le monde soit. Il ne faut pas que tout le monde soit moins représenté, mais il faudrait qu'il y ait au moins une personne qui soit en charge. Ce n'est pas une formule magique, mais ce serait une des approches à utiliser. Il faut aussi faire des sous-groupes. C'est ça, ce serait ça le cœur de l'avenir du modèle multipartite.
Malheureusement, on devrait clore parce qu'on a une réunion à TRT qui va se dérouler maintenant. Mais il y a deux membres board qui n'ont pas parlé. Mais ils ont les Sherine et Olga ensuite vont parler. Je respecte tout le monde. Je ne comprends pas tout ce qu'a dit Bertrand, mais je suis d'accord avec lui. Dit Monsieur. Donc le Sherine me semble. Donc le silence est d'or. Donc je ne vais rien dire. Bonjour, dit Olga. Je ne vais pas répéter toutes les assurances que vous avez données sur le rôle d'un groupe d'experts, mais j'aimerais tout simplement dire qu'un groupe d'experts, d'analyseurs ou de ceux qui font la version préliminaire, ce sont les travailleurs les analystes, tout ça. Donc, ils sont un groupe pour aider et pas remplacer. Cela dit, vu l'assurance qui a été donnée, je vois beaucoup d'acquiescements. Il faudrait peut-être penser à cimenter cette assurance, créer dans votre propre travail une confirmation, un rapport de cette discussion. Mais une confirmation, pas forcément un conseil, mais une confirmation du travail, ce serait utile pour votre groupe, mais à d'autres qui pourraient également avoir cette question. Merci, dit Olivier, merci à Olga. Et pour clore, Thomas, quelques commentaires. J'aimerais changer le sujet un peu et dire que c'est ma dernière réunion en tant que membre board ICANN. Je le fais depuis 8 ans. Je suis sûre, Yannick va bien me remplacer, il est très capable, mais je vois beaucoup de versions d'ALAC avec le temps. Et franchement, quand j'ai commencé, ALAC était perçu comme étant complètement inutile et incompétent. Il y avait beaucoup de problèmes, ils étaient là seulement pour un rôle de figuration, peu importe ce qu'ils faisaient, ils faisaient de la façon rien d'utile. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on puisse le dire aujourd'hui. ALAC a fait vraiment de grands progrès depuis 8 ans et je suis vraiment heureux de voir tout le travail qui se déroule en termes de l'intégration d'ALAC avec d'autres parties de la communauté. Ce n'était pas le cas auparavant et le fait que vous faites des déclarations et des déclarations qui en général sont plutôt solides et bonnes et bonnes et utile. ALAC est une partie importante de la communauté ICANN parce qu'en fin de compte, ce qu'on fait, si ça ne marche pas pour l'usager final, quelque chose ne va pas. Donc vous avez un rôle important et je serais heureux de dire que la situation actuelle d'ALAC maintenant est vraiment très, très intéressante et très positive. Merci. Je suis heureux d'avoir pu être témoin de cela. Olivier dit, vous allez nous manquer au board, mais Atladej est ouvert et il y a eu des précédents d'un board membre qui sont venus à ALAC, Jacques Subrenat, donc vous avez un parcours tout tracé pour vous. Merci. Merci à tout le monde, comme d'habitude. C'est une interaction vigoureuse et c'est un bon départ pour le matin. Merci.